Merci Christelle, merci groupe de louanges pour ce premier temps d'introduction. Vous avez quand même parlé pas mal de choses et je pense que c'est un petit peu dans la continuité puisque ce matin je vais parler un petit peu des caractères de Dieu. Vous savez, déjà dans le passé, dans le cadre de projet de l'Église, nous avons déjà apporté quelques prédications. Le premier message, c'était œuvrer pour une Église intergénérationnelle apporté par la semaine dernière par Jean-Pierre. Et ensuite, la croissance de l'Église, le groupe de croissance, message sur le groupe de croissance apporté par Daniel, voilà, consolider, développer les groupes de maison, etc. Et puis, la troisième devise pour le projet d'Église, c'est découvrir de nouvelles manières de grandir dans la foi. Découvrir nouvelle manière de grandir dans la foi. Donc ce matin, je vais parler de comment grandir dans la foi. Et pour cela, je pense que j'ai quand même, si vous avez la Bible, tant mieux, si vous pouvez ouvrir votre Bible aussi, c'est dans 2 Pierre, chapitre 1, à partir de verset 3. Ce matin, je vais parler des vertus chrétiennes. J'aimerais vous lire. Voilà. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elle, vous deveniez participants de la nature divine. C'est ça un peu le message central de ce matin, afin que par elle vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Voilà jusqu'ici notre lecture. Paul, en écrivant son deuxième épître, il savait très bien qu'il allait bientôt mourir. D'ailleurs, lorsque nous voyons dans le chapitre 1, verset 14, Paul le dit lui-même, « Je le sais, je n'en ai plus pour longtemps. » Il sait très bien qu'il va bientôt mourir. C'est pour cela qu'avant de mourir, il veut laisser aux frères et sœurs en Christ sa dernière consigne. On pourrait dire que c'est son dernier testament. Et il commence par rappeler pas mal de dons, mais en disant que, afin que par elle, vous deveniez participants de la nature divine. En d'autres termes, on peut traduire participants de la nature divine par d'autres traductions qui dit que, afin de devenir conforme au caractère de Dieu. Voilà, c'est une autre traduction, afin de devenir conforme au caractère de Dieu. Autrement dit, nous allons recevoir le caractère de Dieu. Nous allons recevoir le caractère de Dieu. Bien sûr, nous n'allons pas recevoir tous les attributs de Dieu, par exemple l'omniscience de Dieu, l'omnipotence de Dieu, ça, nous ne l'aurons jamais. C'est Dieu seul aura ces attributs. Mais quoi qu'il en soit, Dieu nous accorde par la foi certains caractères qui lui appartiennent. Qu'est-ce qu'on peut imaginer comme caractère de Dieu? La douceur, bien sûr, la douceur qui fait partie des fruits de l'esprit, n'est-ce pas? On a parlé ce matin de la douceur. Les fruits de l'esprit, c'est quoi? C'est l'amour, la joie, la paix, n'est-ce pas? La patience, la bonté, la bienveillance, la douceur, et puis la maîtrise de soi. Et la foi, on a oublié la foi. D'ailleurs, c'est le sujet d'aujourd'hui, la foi. c'est vraiment super de recevoir ces caractères de Dieu en nous. Si Dieu nous accorde ses propres caractères. J'aimerais vous parler un petit peu d'une expérience que j'ai vécue il y a quelques mois. J'ai regardé une série coréenne. Je pense que je vous avais déjà parlé. Ça s'appelle Moving. C'est diffusé dans Disney. Alors normalement, c'est intitulé en français « Les pouvoirs de l'ombre ». C'est une histoire des super-héros. Hein, j'aime bien ça. Il y avait un homme dans cette série doté d'une force surhumaine. C'est incroyable. On voit aussi encore une fille capable de se régénérer, même si elle se blesse. On voit encore un garçon qui arrive à voler à une vitesse incroyable. Encore une autre femme avec des capacités sensorielles, visuelles, qui dépassent les limites ordinaires, etc. Ils avaient vraiment des super pouvoirs. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait des gens qui avaient le super pouvoir, gentils, et des méchants. Bon, en fait, j'aurais pu vous parler de Marvel. Hein. Là, comme ça, tout de suite, vous pouvez vraiment visualiser, hein, comme Iron Man, Hulk, Thor, Spider-Man, Spider-Man, en tout cas, ou encore d'autres héros. Pourquoi je vous parle de tous ces héros, etc. Tout simplement parce que nous recevons, nous aussi, des traits de caractère de Dieu. Autrement dit, nous recevons des super-pouvoirs. On n'aura pas des super-pouvoirs comme ces héros dans Marvel. Mais nous recevons aussi des super-pouvoirs, et autrement dit, ainsi, grâce à la foi que nous obtenons par la grâce de Dieu, nous sommes devenus des super-héros. Des super-héros de la foi. Qu'en dites-vous de ça? C'est pas mal. Est-ce que vous pouvez répéter, dire à votre voisin qui est à côté, ce que vous êtes des super-héros de la foi? Voilà. Eh oui. Oh oui, oui, merci, merci, merci. Merci pour la communion. Oui, nous sommes, à partir du moment où nous recevons les caractères de Dieu, nous devenons des gens, des super-héros, des super-pouvoirs que nous recevons. Et Pierre nous recommande de recevoir en tout cas ces dons pour devenir conformes au caractère de Dieu. Donc là, on va tout à l'heure parler des dons. Cependant, il insiste également aussi sur la nécessité de fuir la corruption engendrée par les mauvais désirs présents dans le monde. Dans le verset que nous avons lu tout à l'heure, il est dit encore, la dernière phrase, « en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. » Donc non seulement on doit recevoir ces traits de caractère pour devenir participant de la nature divine, mais aussi, nous devons aussi fuir la corruption, fuir de la convoitise. Le verbe « fuir » est un verbe assez fort. Il ne s'agit pas simplement de repousser les mauvais désirs comme on repousse une nourriture qu'on n'aime pas. Ce n'est pas ça. Ici, Pierre veut souligner qu'il faut vraiment fuir, comme de la peste, ce péché, les tentations qui existent. Peut-être on pourrait comparer avec l'histoire de Joseph. Joseph, face aux tentatives de séduction de la femme de Potiphar, voilà, on pourrait comparer avec ça. Joseph, qui est devenu esclave, qui est vendu comme esclave, devient un esclave de Potiphar, où il prend une certaine responsabilité. Il devient presque le chef pour gérer la maison de Potiphar. Et alors que tout va bien pour lui, tout à coup, la femme de Potiphar veut le séduire. Est-ce qu'il a repoussé cette femme Potiphar parce qu'elle était moche? Je pense quand même qu'elle devait être une femme super attirante. Je dirais même, on peut imaginer la femme de Potiphar comme une femme de grande beauté. Je sais pas, on pourrait imaginer quelqu'un de notre époque, je sais pas, une femme super belle. Est-ce que ça vous vient à la tête, quelqu'un comme ça? Moi, il y a deux noms qui m'est venu. Monica Bellucci. Oui, Monica Bellucci quand même. Et puis après j'ai aussi pensé Marilyn Monroe aussi, une belle femme. Donc imaginez Monica Bellucci, enfin, alors pour certains vont me dire, ah mais Jean, arrête de dire des bêtises, il se peut que cette femme était vraiment moche. Alors, moi, je vais vous dire quand même quelque chose. Regardez les femmes des footballeurs qui gagnent beaucoup d'argent. Elles sont en général très belles. Je me dis que Potiphar, qui était un grand ministre à l'époque et qui était aussi très riche, il devait aussi avoir une femme d'une grande beauté aussi. Enfin, je suppose. Donc, devant cette tentation, Joseph choisit de fuir. La fuite de Joseph montre qu'il était vraiment très déterminé. Déterminé à garder sa pureté. Déterminé à garder sa foi. C'est un acte d'autodiscipline, une décision de renoncer à toute compromission avec tout ce qui est moralement répréhensible. L'image de la fuite accompagnée de l'abondance symbolique des vêtements, ça pourrait peut-être comparer avec un détachement total vis-à-vis de ces désirs charnels, des désirs nuisibles. Voilà. Enfin, bref, quoi qu'il en soit, la Bible nous dit fuir. Il faut fuir la corruption. Il faut corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Ce n'est pas forcément la tentation pour certains, ça pourrait être autre chose. Ça pourrait être l'argent, ça pourrait être la puissance, l'honneur. Enfin bref, c'est important de fuir la corruption qui est dans le monde. En tout cas, Pierre nous recommande de se remettre en question. Si nous sommes vraiment apte à croire en Dieu, et aussi si nous sommes vraiment des chrétiens authentiques. Il est vraiment aussi, nous, les chrétiens d'aujourd'hui, essentiel de se remettre en question de manière régulière, pas juste une fois. Oui, je me suis remis en question il y a peut-être 10 ans ou 20 ans. Et à ce moment-là, oui, j'ai fait quand même quelques ménages dans ma vie personnelle et maintenant tout va bien. Non, cette remise en question doit être renouvelée jour après jour, mois après mois, année après année. Nous avons commencé l'année 2024 et je pense que c'est aussi important de se remettre en question devant le Seigneur. Mais Seigneur, est-ce que je suis vraiment ton serviteur fidèle? Est-ce que je suis vraiment un bon chrétien qui te suit? Ce genre de remise en question doit être faite au niveau individuel, mais aussi au niveau communautaire. Au niveau communautaire. C'est important de se remettre en question aussi au niveau communautaire pour savoir si notre Église va vers le bon chemin ou pas. C'est pour ça que, en tout cas moi je suis très content d'avoir les autres frères anciens avec qui nous pouvons collaborer, avec qui nous gérons cette Église dans la collégialité. Ce n'est pas une seule personne qui dirige, mais c'est plusieurs personnes avec l'Esprit de Dieu inspiré. Et d'ailleurs, si Luther ne s'était pas mis en question, il n'aurait jamais créé le protestantisme. Heureusement que Luther aussi s'est remis en question, même au niveau communautaire. C'est comme ça qu'il a initié la réforme contre l'Église catholique. Et c'est comme ça qu'il a... Voilà, il a créé dans la continuité de l'Église, l'Église protestante. Et sa devise était la foi seule, la grâce seule, et puis l'Écriture seule, le Christ seul, la gloire de Dieu seul. Voilà, souvent on dit souvent sola fide, voilà c'est ça, sola fide, sola gratia, sola scriptura. Enfin, en général, c'est trois choses que nous tenons souvent. C'est justement en tout cas dans ce contexte de la foi que Pierre aborde un sujet similaire. Il va maintenant aborder à partir de verset 5 plusieurs caractères de Dieu. Ou caractère qu'il nous accorde, lui, à nous en tout cas. J'aimerais vous lire à partir de verset 5. À partir de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu à la science la tempérance, la patience, et à la patience la piété, à la piété, l'amour fraternel, à l'amour fraternel, la charité, c'est-à-dire l'amour. Le verset commence par « Faites tous vos efforts !» Faites tous vos efforts. Certains me disent « Écoute, Jean, nous sommes sauvés par la grâce de Dieu. C'est lui-même qui nous donne le vouloir et le faire. » Ce n'est pas forcément en faisant des efforts que nous sommes transformés. C'est correct de dire que la grâce de Dieu est la base de tout. C'est vrai. Ce n'est pas par nos efforts que nous pouvons être sauvés. Ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés d'ailleurs. Il est dit dans la parole de Dieu, seule la foi nous justifie. C'est vraiment par la foi seule que nous sommes justifiés. Donc, certains, justement, peut-être risqueraient de ne pas faire d'efforts. Or, il est dit dans cet épître de Pierre, faites tous vos efforts. Faites tous vos efforts. Qu'est-ce qu'il voulait dire, faites tous vos efforts? Ça veut dire que cela ne libère pas le croyant de la responsabilité de participer activement à la croissance spirituelle. Nous avons cette responsabilité de faire nos efforts pour peut-être créer cette synergie entre la grâce de Dieu que nous recevons, mais aussi les efforts que nous devons fournir. Voilà, nous devons faire des efforts. Pas laisser comme ça en disant « Seigneur, tu sais faire les choses, hein ? Tu me donneras le vouloir et le faire, peut-être pour abandonner le péché, pour être transformé. » Certes aussi, mais nous devons aussi, de notre part, faire des efforts. Les versets que je viens de lire étaient un peu difficiles. Je vais lire en français courant. Peut-être ça vous aidera à mieux comprendre. Pour cette même raison, faites tous vos efforts pour enrichir votre foi d'une excellente conduite. Voilà, il est ici, au lieu de la vertu, il est dit d'une excellente conduite. Et votre excellente conduite de la connaissance de Dieu. Et à votre connaissance de Dieu, ajoutez la maîtrise de soi. Et la maîtrise de soi, la persévérance. Et à votre persévérance, ajoutez l'attachement à Dieu. Il a traduit l'amour du prochain par l'attachement à Dieu. Enfin, à votre attachement à Dieu, ajoutez l'affection. Enfin, non, l'attachement à Dieu, c'était plutôt la piété. Voilà, la piété. Et l'affection fraternelle, l'amour fraternel. Et à votre affection fraternelle, l'amour. Voilà. Les 8 vertus chrétiennes que Pierre étale pour que nous puissions les acquérir, pour que nous devenions participants à la nature divine, pour que nous puissions recevoir les caractères de Dieu. Tout d'abord, nous allons voir la foi. La foi, c'est vrai que la vie de piété commence par la foi. Nous avons commencé à avoir une vie chrétienne en recevant la foi. Cette foi orientée vers Jésus, le Fils de Dieu. Paul déclare d'ailleurs, ce que je vis maintenant dans la chair, je le vis dans la foi. La foi au Fils de Dieu qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même pour moi. Voilà, c'est cette rencontre avec le Christ qui nous a permis d'avoir la foi et d'avoir une vie de relation avec le Seigneur. Et cette foi peut être petite. D'ailleurs, la Bible nous dit, suggère que la foi comparable à une semence a le potentiel de grandir et de se développer. Dans Matthieu 17, il est dit que, il leur dit, c'est à cause de votre incrédulité. Car, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sève, donc c'est tout petit, hein, il faut imaginer un grain de moutarde, comme des semoules, par exemple. Voilà. Vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. C'est vraiment, voilà, Et puis il y a d'autres versets qui disent qu'avec les graines de sénevé, ben, ça peut justement grandir et devenir un grand arbre pour justement abriter aussi les oiseaux. Oui, peut-être cette graine de foi est petite, mais ça peut grandir. Et d'ailleurs, cette graine n'est pas pour objectif de rester comme une graine, comme un grain, mais de grandir, de développer, de se développer pour devenir un grand arbre. Et la foi, oui, que nous avons commencé par cette rencontre merveilleuse avec le Seigneur Jésus, ben, le Seigneur nous dit, ben, écoute, maintenant, avec cette foi, tu dois avancer. Deuxième caractère que le Seigneur nous donne, c'est une excellente conduite, la vertu. La vertu, bien sûr, cette excellente conduite découle de la foi. Sans la foi, on ne peut pas avoir un comportement excellent, une conduite excellente devant le Seigneur. On voit cela aussi à travers les personnages. Moïse, par exemple, qui incarne la foi inébranlable, lui, bah, justement, a pu agir, montrer un comportement excellent vis-à-vis des autres. Et d'ailleurs aussi, Paul, malgré son passé de persécuteur, est aussi un très bon exemple en montrant aussi une transformation complète opérée par la foi. Il y a des gens, vous voyez l'autre, qui justement, lui aussi, il a eu la foi, mais il avait une vie de compromis avec le monde. Il était séduit par le monde, par le Sodome, et malgré les avertissements. Et en tout cas, il a pu s'en sortir de la destruction de Sodome, mais quand on voit la vie de l'autre, ce n'était pas fameux. La vertu guide donc le croyant à ne pas faire de compromis avec le monde, l'aidant à rejeter les tentations et à maintenir son regard fixé sur les réalités éternelles. Voilà, nous avons vu la foi, nous avons vu la vertu, donc une excellente conduite. Pardon. Et puis, la connaissance, la science, la connaissance de Dieu. On sait très bien que la connaissance de Dieu, pour avoir la connaissance de Dieu, il faut la parole. La parole est nécessaire pour guider le croyant dans sa conduite pratique. Et d'ailleurs, on peut dire que la foi vient de ce qu'on entend, et de ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu, la connaissance de Dieu. Et cette connaissance est vraiment très importante. Il y a quelques semaines, vous savez que j'ai un problème avec ma tendinite. Hein, ça faisait une année que j'avais traîné cette tendinite. Et puis finalement, j'ai pu aller voir un rhumatologue. Il m'a dit, ben, écoute, d'abord, prends des radios, on va voir ce qui ne va pas. Donc, effectivement, je suis passé pour faire des radios, pour vérifier s'il n'y avait pas de problème au niveau de mon bras. Et puis, comme j'ai un problème de genou, j'ai pas mal de problèmes, en fait. Donc, voilà, j'ai pris des radios pour mon bras, pour mes genoux, et aussi pour mon bassin. C'était la première fois. Hein. C'était pas très fameux. Être en slip pour être prise comme ça en photo devant quelqu'un, c'était pas agréable. Enfin, bref, c'est pas important. Quand j'ai vu les radios, je me suis dit, mais tout va bien. Il n'y a pas de cassure, il n'y a rien. Ça va. Hein. Bon, après, un amateur verrait s'il y a une cassure des os, mais. Moi, en tout cas, il n'y avait rien qui était anormal. Par contre, le rhumatologue, le spécialiste, arrivait à voir les problèmes. Je me dis, nous devons être aussi spécialistes de la parole de Dieu pour voir ce qui ne va pas. Quand tout va vraiment mal, c'est-à-dire vous avez été amputé d'un bras, là, on voit clairement. Mais des petites choses comme ça, on a du mal à déceler ces problèmes-là. Il faut être des spécialistes. Et je me dis que, oui, soyons aussi des spécialistes de la connaissance de Dieu pour voir ce qui ne va pas en moi. Parce qu'on a dit tout à l'heure, au début de ma prédication, il était important de faire une remise en question de soi. Et pour faire une remise en question de soi, il faut avoir la connaissance. Pour avoir la connaissance, il faut connaître la Bible, la parole de Dieu. clairement. C'est pour ça que la Bible, cette année, l'Église nous a encouragés à lire la Bible tous ensemble. D'ailleurs, si vous regardez derrière, il y a encore des grilles de lecture de la Bible. Donc, si vous n'en avez pas, vous pouvez encore prendre. Il y a des grilles de lecture de la Bible qui va vous aider à lire la Bible en 3 ans, une fois la Bible. C'est génial. Oui, il est vraiment crucial de connaître la parole pour discerner les problèmes. Le psalmiste dit « Ta parole est une lampe à mon pied et une lumière à mon sentier. » Cette parole nous fait grandir dans la foi. Quatrième point, la maîtrise de soi. La maîtrise de soi est vraiment importante pour chacun d'entre nous, afin de nous préserver des excès. On peut se rappeler l'histoire de tout à l'heure de Joseph, l'exemple de Joseph qui a su exercer sa maîtrise de soi pour résister à la tentation de la femme de Potiphar. Imaginez une belle femme. Et lui, c'est un jeune homme qui est célibataire, qui a l'âge de se marier. Mais il a pu fuir, il a pu résister, il a pu avoir cette maîtrise de soi pour s'en sortir. La maîtrise de soi, donc également appelée la tempérance, agit comme un rempart pour nous, comme une muraille de protection contre les pièges du diable. Oui, de nos jours, il y a toujours une guerre spirituelle. Il y a une guerre spirituelle. Est-ce que vous vous rendez compte? Cette guerre spirituelle, nous menons tous les jours. Et cette vertu de maîtrise de soi est nécessaire pour servir de boussole essentielle pour préserver la pureté morale, mais aussi pour maintenir la fidélité vis-à-vis de notre Dieu. Et ainsi, nous pouvons demeurer dans la foi et être prêts à témoigner de la grâce de Dieu dans un monde où il y a beaucoup de compromissions. Cinquième point, c'est la patience. Elle est nécessaire pour que la maîtrise de soi, en parallèle, soit réalisée quotidiennement dans la vie du croyant. Comme je disais, que ce sont des traits de caractère de Dieu. Dieu était patient à notre égard. Lorsque nous lisons la Bible, Dieu était vraiment patient à l'égard du peuple de Dieu. Alors que l'Israël était toujours rebelle, toujours en rébellion, toujours en train de suivre le plaisir charnel ou l'idolâtrie, Dieu n'avait jamais abandonné son peuple. Il était patient. D'ailleurs, il use de patience encore aujourd'hui pour sauver le maximum de personnes possible. De même, cette patience de Dieu, on devrait aussi l'acquérir. Oui, on peut voir ça à l'exemple, avec l'exemple de Job. D'ailleurs, dans Jacques, il est dit que sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Oui, parfois l'épreuve de la foi peut produire la patience. Malgré les difficultés de la vie, le Seigneur nous donne cette patience nécessaire pour endurer, pour être victorieux à la fin. On peut voir ça aussi dans Jacques chapitre 5, je vais vous lire à partir du verset 7. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Oui, Seigneur, reviens. Oui, le Seigneur revient. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici, le juge est à la porte. Prenez, mes frères, pour modèle de souffrance et de patience, les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Amen. À travers cet exemple de Job, on peut être patient malgré les épreuves, malgré les difficultés que nous pouvons traverser. Oui, cette patience, nous devrions aussi avoir comme caractère de Dieu. Sixième caractère, sixième vertu, la piété. Autrement dit, l'autre version dans la Bible française courant, c'est l'attachement à Dieu. L'attachement à Dieu. Lorsqu'on parle de la piété, on pense souvent aux moines, n'est-ce pas? Souvent, ils sont là, dans leur monastère, en train de prier avec zèle, empressement. Mais ce n'est pas seulement dans le monastère qu'il faudrait faire. Nous aussi, nous sommes appelés à être zélés, à être des vrais croyants authentiques, avec empressement et aussi avec rigueur incroyable. Rigueur incroyable. Ce que nous pouvons comprendre, c'est que la piété, c'est-à-dire l'attachement à Dieu, est nécessaire pour nous. Si on traduit cela en d'autres mots, c'est le chrétien pieux. Le chrétien pieux est celui qui se confie en Dieu, est celui qui est en communion étroite avec le Seigneur. Paul recommande à Timothée de s'exercer à la piété. De même, Pierre aussi, dans cette deuxième épître de Pierre, il nous recommande la même chose, de persévérer et aussi d'avoir cette piété, cet attachement à Dieu. Septième point, affection fraternelle. L'attachement à Dieu, qu'on vient de voir, nous conduit aussi à manifester notre affection envers notre prochain, et notamment nos frères et sœurs dans la foi. Et en considérant l'image du corps de Christ par rapport aux autres frères et sœurs en Christ, chaque croyant est comparé à un membre interconnecté. Nous sommes tous interconnectés dans le corps du Christ. Et cette affection fraternelle, justement, permet de vivre quelque chose de plus fort ensemble. Ainsi, dans 1 Corinthiens 12, il est dit que si un membre souffre, l'ensemble du corps partage la souffrance. Si un membre est dans la joie, c'est l'ensemble du corps du Christ qui se réjouit dans la joie. Et on partage tous ensemble de manière collective. Ainsi, Pierre encourage les croyants à avoir une affection fraternelle sans hypocrisie. Sans hypocrisie. Parce qu'on peut exprimer un certain amour fraternel, d'apparence. Mais est-ce que nous l'exprimons et nous le pensons de manière authentique? C'est ça, sans hypocrisie. On peut aussi donner l'exemple du bon samaritain qui illustre bien l'amour fraternel, mais qui va au-delà de la frontière familiale en Christ. Le samaritain vient en aide à un pur inconnu, offrant son assistance sans attendre de retour de sa part. En d'autres termes, si nous avons la foi, la vertu, la connaissance de la parole de Dieu, la patience, la maîtrise de soi et l'attachement à Dieu, cela nous aidera à pratiquer l'amour du prochain. L'amour fraternel vis-à-vis des croyants, mais aussi des incroyants. Le dernier point que j'aimerais souligner, c'est l'amour. Effectivement, souvent on dit que quand un disciple a posé la question à Jésus, mais quel est le plus grand commandement, il a dit, c'est aimer son prochain, et aussi, deuxième chose, c'est aimer Dieu. L'amour, oui, Dieu est amour. C'est l'essence même de Dieu, en fait, l'amour. C'est par amour que Dieu s'est donné lui-même, alors que nous étions encore pécheurs. Nous n'étions pas des gens justes, nous n'étions pas des bonnes personnes. Où nous agissions de manière correcte, non. Alors que nous étions encore pécheurs, Dieu s'est donné lui-même pour nous. Mais quel grand amour, quel grand amour. Il est la source de l'affection fraternelle envers tous ceux qui appartiennent à Christ, sans partialité. L'amour, le dernier maillon de cette chaîne de vertus chrétiennes, est le couronnement de toutes ces vertus. Lorsque l'âme du croyant jouit de l'amour de Dieu manifesté en Christ, rien ne manque. L'amour cherche toujours à bénir les autres. L'apôtre Jean exhorte vers la fin de sa vie, « Enfants, n'aimons pas de paroles, ni de langue, mais en action et en vérité. » Que cet amour que Pierre nous recommande, que nous puissions vraiment mettre en pratique, non seulement, pas seulement avec nos paroles, mais en action et en vérité. Retenons cette recommandation. J'aimerais conclure. J'ai dit tout au début de cette prédication que nous avons reçu ces super pouvoirs. N'est-ce pas? Faut pas considérer ça comme... Enfin, si, ce sont des caractères de Dieu. Ce sont des valeurs, des qualités. Le mot vertu ne revenait pas. Ce sont les vertus, les 8 vertus du Seigneur qui appartient à Dieu, mais qui nous a été donné. Nous avons reçu quelque chose de Dieu. Nous avons reçu des super pouvoirs de Dieu. Et à travers ces vertus, à travers cette parole, Pierre, avant de mourir, il sait que bientôt, il va bientôt mourir. Il cherche à secouer ceux qui sont encore indécis dans leur foi. Et il veut vraiment que tous ses frères et sœurs en Christ croissent davantage dans la maturité spirituelle. Et il met en garde aussi contre l'influence des enseignants erronés qui encouragent une vie spirituelle de manière superficielle. J'espère que vous n'avez pas une vie spirituelle de manière superficielle, mais plutôt, voilà, avec une remise en question de soi, que vous puissiez avoir une vie authentique, une vie de foi authentique. Pierre aussi souligne que l'apparence véritable au Seigneur se manifeste à travers des efforts. Oui, je vous ai parlé tout à l'heure, je vous ai lu qu'il faut faire des efforts pour développer des qualités telles que la foi, une excellente conduite, la connaissance, la maîtrise de soi, la persévérance, l'attachement à Dieu, l'affection fraternelle, l'amour fraternel et l'amour. L'absence de travail pour développer ces qualités peut justement soulever des questions sur la véritable nature de notre apparence à Dieu. On peut se poser vraiment des questions. Est-ce que je suis vraiment un vrai chrétien authentique ou pas? Pierre souligne que la vie d'un croyant authentique, caractérisée par des efforts et des qualités spirituelles que je viens de citer, renforce la capacité à résister aux tentations et aux séductions de l'erreur ou du péché. En résumé, Pierre met vraiment en garde contre une foi superficielle, soulignant que notre vie devrait être un reflet authentique de notre relation avec Dieu. Les efforts constants pour développer des qualités spirituelles sont une réponse naturelle à la grâce de Dieu reçue. Et cela témoigne de notre véritable appartenance au Seigneur. La foi active se montre par la production de bons fruits et la croissance vers la maturité spirituelle. Dieu invite à travers cette épître de Pierre à vivre notre foi de manière authentique. Pour cela, il y a plusieurs manières de faire. Lire la Bible, je vous ai recommandé tout à l'heure, en rejoignant aussi un binôme de croissance ou un groupe de cellules qui existent dans notre église, où vous pouvez peut-être participer à un temps de formation ou des échanges. Vous pouvez aussi même vous encourager les uns des autres dans la prière, intercédant ensemble, partageant les sujets de prière. D'ailleurs, c'est ce que nous allons faire tout à l'heure. Et puis, c'est ainsi que nous pouvons grandir ensemble. Que nous puissions être des vrais chrétiens authentiques, ayant reçu ces super pouvoirs de Dieu qui nous permet de nous élever, d'avancer, de grandir, de se croître. Amen. Je vous invite à la prière. Seigneur, j'aimerais vraiment te confesser d'abord notre manquement. Quand nous regardons tous ces points de caractère de Dieu, parfois on peut se dire, mais c'est trop loin par rapport à ma vie actuelle. Mais tu nous as fait grâce, tu nous as accordé la foi, et tu nous donnes même la capacité d'acquérir tous ces caractères de Dieu. Seigneur, aide-nous vraiment à faire des efforts, à nous détacher aussi de toutes ces tentations, péchés, comme a montré Joseph. Seigneur, merci encore pour ta présence, pour ton accompagnement, pour que nous puissions vraiment grandir dans la foi. Même si nous avons en ce moment une petite foi, même si nous traversons en ce moment des épreuves difficiles à supporter, nous savons que avec toi, nous serons vainqueurs. Avec tous ces caractères de Dieu, nous pouvons devenir des vainqueurs. Soit avec nous, soit avec ton Église de Vendeuvre aussi. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que c'est le temps des annonces? Après? Alors, j'aimerais inviter Aisha, tout d'abord. Ouais.